franceinter.fr.
Carnet de campagne, bonjour, bienvenue dans l'Eure-et-Loire, premier département céréalier de l'Hexagone. Ce territoire est doté de filières économiques porteuses comme sa cosmétique vallée et ses industries pharmaceutiques. C'est aussi une référence en matière d'énergie éolienne déployée sur la plaine de la Beauce. Je ne ferai aucun commentaire sur l'éolien parce que dès que j'en parle, je reçois des courriers pour ou contre. Aujourd'hui, nous ouvrons une nouvelle voie VOIE et faisons entendre de nouvelles voix VOX par l'intermédiaire de nos confrères de la presse régionale quotidienne, la PQR, celle de la proximité, souvent porteuse de bonnes nouvelles dont nous sommes friands. Donc on va ouvrir aujourd'hui une nouvelle fenêtre, les bonnes nouvelles de la presse quotidienne régionale. Honneur donc à l'éco-républicain que dirige Éric Moine. Ce journal a eu la très bonne idée d'ailleurs de créer un blog d'expression des quartiers. Il s'appelle tout logiquement l'éco-quartier, quartier avec un S, donc l'éco-quartier.fr, allez-y, c'est vraiment bien fait. Et puis nous irons ensuite à la rencontre d'un agriculteur qui complète sa production par une culture de sapin de Noël biologique grâce à l'apport de désherbeurs naturels que sont ces moutons Shropshire. C'est une découverte, une race d'origine britannique qui commence à apparaître en France. À la ferme de la Choltière, nous appellerons à cette occasion Sébastien André.
France Inter, carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Éric Moine, bonjour.
Oui, bonjour.
Éric, rédacteur en chef de l'Éco-Républicain dans le groupe Centre France, avec vous, on inaugure des échanges tout à fait normaux et logiques avec vous et les responsables de la presse quotidienne régionale pour la simple et bonne raison qu'au bout de 10 ans, je fais souvent référence aux différents articles de nos confrères de la presse de proximité et on a décidé cette année donc de vous donner directement la voix, ce qui est encore plus judicieux, surtout pour ouvrir cette semaine en Eure-et-Loire où Éric, vous avez envie de nous donner un autre portrait de la ville de Dreux qui se métamorphose depuis de nombreuses années.
Oui, tout à fait. Dreux a laissé une empreinte indélébile dans la mémoire collective à cause d'un événement majeur politique au début des années 80 avec le premier accord politique entre une liste de RPR et une liste du Front National pour conquérir une mairie. Donc je ne sais pas si j'en s'en souviens encore, mais ça avait été un gros scandale. On avait montant Simone Signoret qui était montée au créneau, Simone de Beauvoir. Ouais. Mais en tout cas, la ville de Dreux reste marquée par cet événement et traîne comme un boulet depuis cette époque cette image de ville frontiste. Alors que concrètement, dans la vie quotidienne que nous pouvons nous vivre et observer tous les jours, Dreux, au contraire, aujourd'hui, est juste une ville où les gens de différentes couleurs, différentes générations, vivent sans doute mieux ensemble qu'ailleurs. Le Front National à Dreux, c'est 24-25%, c'est-à-dire moins que la moyenne départementale, voire nationale.
Ouais. Et alors, aujourd'hui, autre visage, dans cette mixité culturelle, qui fait la richesse de Dreux aujourd'hui, des expressions, des initiatives, comme celle de Famille d'ici et d'ailleurs?
Oui, Femmes d'ici et d'ailleurs, effectivement, c'est une association qui est portée par des femmes, qui s'est créée en 95 après une série de révoltes urbaines dans les quartiers défavorisés où vivent 90% de population immigrée de deuxième, troisième génération. En fait, les femmes ont pris les choses en main et par tout un tas d'initiatives réussissent à mettre du lien entre les différentes communautés, mais aussi entre les différentes générations. Et ce que je trouve le plus original et le plus intéressant, cette espèce de façon qu'elles ont de donner tous les outils aux femmes pour justement qu'elles puissent prendre leur indépendance vis-à-vis des communautés, je ne dis pas de leur communauté, mais des communautés, voire même leur indépendance vis-à-vis de la famille, du cercle familial. Et on a aujourd'hui, donc 30 ans après cette histoire du Front National, on a aujourd'hui des grandes figures féminines issues de l'immigration qui ont tout à fait leur place au niveau, même au niveau politique, et pas forcément seulement à gauche. J'ai en tête Tacida Oud, une femme qui a été la première à être nommée porte-parole par un certain Emmanuel Macron.
Ouais. J'ai fait un lapsus, j'ai dit famille d'ici, et d'ailleurs c'est femme d'ici, et d'ailleurs vous avez rectifié, merci. Le site c'est afida.fr, c'est une adresse que vous avez trouvée à notre page d'émission. Et puis il y a un second choc, Éric, à Dreux, en 2003, c'est la fermeture définitive de Philips.
Oui, Philippe, c'était le fleuron industriel de Dreux, qui était une grosse ville industrielle. Donc, on est 40 minutes de Paris au sud-ouest. Philippe fabriquait ses téléviseurs sur un site ici. Il y avait à peu près un millier de salariés. Et sur ce site, s'est réinstallé un centre d'appel en 2012. Finalement, ce centre d'appel a été racheté par un Marocain, entrepreneur marocain, l'ancien patron de Microsoft Afrique du Nord, qui a racheté le site et qui l'a développé. Il y a aujourd'hui 500 emplois qui ont été créés sur ce site. Ces sites se relocalisent. Et en l'occurrence, là, c'est un Marocain qui est venu à Dreux racheter une entreprise française et qui l'a développée de façon phénoménale. Ouais. Aujourd'hui, d'ailleurs, que Altice et SFR le rachètent.
Ouais, j'aime bien cette idée de retournement des situations. Et alors aujourd'hui, vous couvrez avec l'Écho Républicain la visite de l'ambassadeur du Maroc en France, chez vous ?
Oui, alors justement, on a l'ambassadeur du Maroc en France qui aujourd'hui passe sa journée à Dreux, visiter cette entreprise notamment, mais aussi et surtout faire une réunion avec des chefs d'entreprise pour leur expliquer que l'avenir pour les entrepreneurs français, et pour Dreux en particulier, peut être justement cette Afrique du Nord, et il vient inciter les entreprises locales à aller investir au Maroc.
Oui. Dernière anecdote, chez vous, il y a le prince Jean, le fils du comte de Paris.
Oui, si aujourd'hui la France restait un royaume avec un roi de France, le prince Jean, effectivement fils du comte de Paris, descendant des Orléans, est à Dreux, parce que Dreux n'est pas que la ville du Front National. Dreux est surtout, historiquement, depuis plusieurs siècles, une cité royale, la ville des Orléans. Et le prince Jean, effectivement, est d'ailleurs le premier à participer aux liens dans la ville de Dreux, en faisant faire les visites de la chapelle royale aux enfants des écoles des quartiers défavorisés. Il se transforme en guide, il leur fait faire la visite, il leur explique l'histoire de France. Les gamins sont fascinés. Et le prince Jean et Philomena, la princesse Philomena, son épouse, descendante de la famille royale espagnole, font leur marché à Dreux, dans les quartiers aussi. Et, ça se passe très bien, ils sont parfaitement acceptés. C'est presque un peu devenu les mascottes de la ville de Dreux.
Ah oui, carrément, oui. Effectivement, c'est une autre histoire qui se dessine avec ce profil que vous nous donnez. Merci beaucoup. À lire dans l'Écho Républicain. Il y a un site, c'est l'Écho Républicain en un seul mot, .fr, tout simplement. Merci Eric Moine.
Je vous en prie.
Dans les pages du site du département d'Eure-et-Loir, www.eurelien.fr, on savoure les bonnes relations que le cinéma entretient avec l'Eure-et-Loir. On savait, ou peut-être pas d'ailleurs, que Cyril Dion, réalisateur avec Mélanie Laurent du film Demain, que vous avez peut-être vu, vit à Dreux. Cyril a été, entre parenthèses, le fondateur du mouvement Colibri avec Pierre Rabhi. Cette fois, c'est un long métrage 100% eurélien qui se tourne actuellement, encore à Dreux, et puis dans le reste du département. Il s'appellera En mille morceaux et devrait sortir en salle à la fin de cette année. Véronique Mériadec réalise ici sa première fiction après avoir réalisé des documentaires alimentés par ses expériences de voyage. Elle a fait un tour du monde en vélo, elle avait fait déjà auparavant un tour de France en VTT. Les principaux rôles sont tenus par Clémentine Sélarier et Serge Riaboukine, tandis que trois jeunes comédiens de Dreux viennent compléter la distribution. Département et région ont largement financé ce film hors des circuits traditionnels. La seconde nouvelle donnée par le site du département est l'installation du très haut débit qui concerne en premier 330 communes oubliées par les opérateurs privés et prise en charge par les collectivités, intervention qui donne des espoirs de couverture quasi générale à l'horizon 2022. Voilà pour les bonnes nouvelles. Il faut savoir que les collectivités effectivement prennent le relais là où les opérateurs privés considèrent qu'il n'y a aucun intérêt à continuer à mettre du très haut débit. C'est comme ça. Sébastien André, bonjour.
Bonjour.
Avec Véronique, vous êtes à l'origine d'un élevage particulier dans le cadre de la culture de sapin de Noël.
Exactement.
Je sais pas, est-ce que vous êtes nombreux en France à produire des sapins de Noël bio ?
Alors écoutez, à ma connaissance, il doit y avoir une autre personne qui se trouve dans le sud-ouest de la France, je crois, qui fait du sapin avec l'étiquette bio. Moi, je ne suis pas avec l'étiquette bio, mais pour moi, mes sapins sont bio, puisque je ne mets pas de produits, pas d'herbicides.
Oui.
Bon, je mets un petit peu d'engrais, mais c'est à peu près tout.
Et grâce donc à ce pédigré extraordinaire du Shropshire, qui est un mouton originaire d'Angleterre.
Tout à fait, le Shropshire, donc c'est un mouton qui vient d'Angleterre. Et qui, comme vous venez de le dire, donc a la particularité de ne pas toucher au sapin de Noël, ou très peu en tout cas. Et aussi, ils ne touchent pas les pommiers. Enfin, c'est une race, donc ils se développent aussi pas mal dans les pommiers, notamment dans les pommiers bio, quoi, dans les vergers bio.
Mmh. Et vous avez découvert avec Véronique, qui travaille à la ferme, vous avez découvert ce principe au Danemark.
Oui, exactement. Lors d'un voyage, en fait, au Danemark, on est allé au salon européen. Il y a le grand salon européen des producteurs de sapins de Noël. Et on a rencontré là-bas des producteurs de sapins qui avaient des moutons, des Shropshire, et c'est là qu'on a connu cette façon de produire les sapins, quoi. Mmh.
Est-ce que vous les utilisez aussi pour la laine maintenant ?
Non, pas du tout, hélas. La laine ne vaut quasi rien chez nous, donc comme pas mal d'autres produits, la laine vient plutôt de pays extérieurs, notamment de la Chine, je crois.
Ouais. Alors vous avez une autre activité, vous êtes producteur céréalier. Est-ce que vous appliquez aussi des méthodes biologiques à cette pratique ?
Non, je suis pas producteur bio en céréales. Donc au moins j'ai au moins le plaisir de pouvoir le faire dans les sapins, quoi.
Et en fait, la production de sapins et la culture des sapins est un complément indispensable à votre situation de céréalier aujourd'hui ?
Indispensable, je ne sais pas. Enfin, cette année, vu l'année historiquement mauvaise en céréales, ça va être bienvenu. Mais en fait, je le fais surtout pour le plaisir d'avoir une autre activité. Et puis aussi bien pour pouvoir avoir une activité de vente, me permettre aussi d'employer une personne à des périodes où il y a un petit peu moins de travail sur les céréales, quoi.
Je veux pas insister et je veux pas opposer les deux pratiques agricoles, mais quand on travaille là sur la culture de sapin de Noël en circuit court, est-ce que le plaisir n'est pas différent, plus réconfortant d'une certaine manière?
Complètement, disons que c'est vrai que le métier de céréalier aujourd'hui, enfin après chacun le voit à sa manière, mais c'est vrai que pour moi le métier de céréalier pur, donc avec des produits phyto et avec l'utilisation de céréales pour l'alimentation animale essentiellement, bon, l'intérêt personnel est quand même très limité pour moi. La satisfaction, en tout cas, est vraiment limitée de vendre du blé qui va servir à alimenter des cochons. Bon. Mmh. C'est clair que le plaisir que j'ai à produire des sapins et à les vendre en circuit court, notamment, et puis sans mettre de produits, pour moi, c'est une satisfaction réelle. Et puis, c'est aussi un plaisir de pouvoir côtoyer des personnes au moment de la vente, quoi.
Ouais. Oui. Alors, évidemment, les sapins, c'est terminé, mais cette année, ça s'est vraiment très, très bien passé.
Oui, ça s'est très, très bien passé. On développe progressivement tous les ans et puis c'est toujours un plaisir. Bon, c'est une période très 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 intense pendant 3 semaines, mais ça nous change vraiment du train-train céréalier. Mmh. Et avec ma femme, on y prend vraiment beaucoup de plaisir, quoi.
Et puis alors, donc rappel, l'association française du mouton Shropshire est toute nouvelle. C'est mouton-shropshire.org pour l'adresse. Et c'est une manière de promouvoir cette race. Et ils sont très beaux, hein.
Ils sont magnifiques, en plus. On les trouve très beaux. Ah, oui. Les gens qui viennent les voir les trouvent tout le temps très beaux. Donc ils doivent être très beaux.
Ouais. Ils ont le museau noir avec des lunettes noires.
Exactement.
Ouais. Le site de la ferme, c'est lacholtière.fr. Vous allez retrouver l'adresse. Merci beaucoup pour votre témoignage, Sébastien. Et continuez. Et bon courage.
Écoutez, c'est moi qui vous remercie. Au revoir.
Au revoir. Demain, on vous présentera entre autres une première mondiale de dessalement de l'eau de mer grâce à l'énergie solaire. C'est l'entreprise Mascara à Chartres. Avant de nous séparer, ensuite nous traverserons pour rappel l'Indre. Et puis au mois de février, nous serons dans le Cher, puis Lyon, le Val d'Oise, les Yvelines, l'Allier. N'hésitez pas à nous écrire depuis ces départements. L'Eure-et-Loire toujours, Nicolas Stoufflet, le jeu des 1 000 euros à Frincé.